Bonjour tout le monde, le voici, le dernier épisode de notre série sur l'histoire du 15 de France en Coupe du Monde. Après avoir revécu ensemble dans le troisième épisode la Coupe du Monde de 2007 organisée en France, puis les débuts très compliqués lors de l'édition 2011, avec une phase de poule conclue par une déroute face aux Blacks, puis une humiliation face aux Tonga, il est temps de découvrir maintenant comment s'est déroulé le quart de finale face aux Anglais de Wilkinson, véritable bête noire de nos bleus. On n'attend pas plus pour se lancer. Allez, c'est parti.
7.
Le premier débat,
il est parti, Julien Alaphilippe.
Elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque.
Elle est presque là, cette victoire. Accélère.
Laure Manaudou qui s'envole. Elle est immense, cette championne.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Le sport, c'est bien.
Comme je vous le disais dans le précédent épisode, tout le monde s'attend avant ce crunch à une déroute française. Sans fond de jeu, sans cohésion, sans envie, sans rien en fait. Personne ne les imagine passer l'obstacle anglais, véritable bête noire des bleus en plus, dans l'histoire de la Coupe du Monde. Sauf que la France, allez savoir pourquoi, est constamment imprévisible. Et ce soir-là, elle va, d'un coup d'un seul, retrouver tout son rugby pour défoncer les Anglais le temps d'une mi-temps.
Et l'on ouvre, Parra, Mermoz, la combinaison. Avec Vincent Clerc, il est passé Vincent. Allez Vincent, allez peut-être. Et c'est Vincent Clerc. Oui, oui. Et c'est de l'équipe de France. C'est encore français pour l'instant. Monsieur Wolf l'a joué. Et l'on ouvre, on la passe dans les chaussettes. On lâche peut-être, Palisson, oui. Intérieur. Et c'est de Maxime Védard.
Deux essais. 16-0 à la mi-temps, on a l'impression que les Bleus viennent enfin de lancer leur Coupe du Monde avec un mois de retard. De la rigueur, de l'envie, du jeu et enfin un plaisir de jouer qui transpire, ces Bleus-là montrent enfin un visage conquérant. La deuxième période sera moins flamboyante, mais suffisamment bien gérée pour que les Bleus s'imposent 19-12. Comment expliquer qu'une équipe subissant la défaite la plus humiliante de son histoire une semaine plus tôt, complètement surpassée par les meilleures nations du rugby depuis plus de 2 ans, sans identité de jeu, parviennent à se retrouver d'un coup pour s'offrir la meilleure nation européenne, son meilleur ennemi de toujours, et se qualifier pour les demi-finales. Bien sûr, il y a le talent des joueurs qui composent cette équipe. Le capitaine du sautoir, élu meilleur joueur du monde cette année-là. Le géant basque Harry Nordoki, le virevoltant Vincent Clerc, la bûche William Servat, et j'en passe. Mais surtout, il s'est passé quelque chose après le match face au Tonga, qu'Immanuel Harry Nordoki raconte dans le podcast de RMC les 10 Coupes du Monde du 15 de France. Que je vous conseille vraiment d'aller écouter. Parce que dans cet épisode, il raconte que le lendemain de l'humiliation face aux Tonga, les joueurs et le staff se sont rassemblés afin de mettre les choses au clair. À l'issue d'échanges parfois proches de l'affrontement physique, puis d'une beuverie réparatrice, les joueurs décident alors de prendre la main sur la suite de la compétition. Marc Lièvremont est toujours là, bien sûr, mais ce n'est plus vraiment lui qui prend les décisions. Son groupe l'a lâché et a décidé de s'autogérer. Cette soirée a créé un véritable électrochoc au sein du groupe. Alors plus soudé que jamais, et c'est sans aucun doute cela qui a mené les Bleus en demi-finale, où les attendent les Gallois, une équipe ultra jeune composée de talents incroyables et menée par le monstre Sam Warburton. On connaît la classique équipe de France, battre une grosse équipe et se faire éliminer juste derrière. Et vu son niveau et son irrégularité depuis des années, ça pue l'élimination façon Fédération Française de la Lose. Et bah même pas, cette année-là, toutes les planètes semblent s'aligner. Et pourtant, cette victoire a été laide, et disons-le, clairement imméritée. Dès la 18e minute, alors qu'ils mènent 3-0, les Gallois vont subir un terrible coup du sort. Sur une action anodine, leur capitaine Warburton retourne Vincent Clerc sur un plaquage cathédral et écope d'un carton rouge mérité.
William Savat, bonne prise de balle, Julien Bonner. Allez, une action peut-être française. Sam Warburton a mis une cartouche énorme alors qu'on se chauffe évidemment. Attention, beaucoup de nervosité. Avec le grand Luke Charteris qui essaie de calmer tout le monde. Il y a eu une énorme cartouche du capitaine gallois. Sam Warburton,
carton rouge.
Exclu,
oui.
Exclu du match.
Ben oui.
C'est le tournant peut-être de cette demi-finale.
Durant plus d'une heure, les Gallois vont devoir évoluer à 14 contre 15 après avoir perdu leur meilleur joueur et capitaine. Du pain béni pour nous. La victoire est là, il n'y a plus qu'à être sérieux et imposer notre physique aux 14 Gallois restants pour faire pencher la balance. Sauf que les Bleus retombent dans leur travers. Ils semblent absents des débats et sont surpassés par l'agressivité adverse. Le match est on ne peut plus équilibré, et il faut se contenter de 3 pénalités de Morgan Parra pour creuser un premier petit écart 9-3 à la 50e minute. Mais à l'heure de jeu, alors qu'on sera en droit d'espérer que les Bleus prennent le dessus, ce sont bien les Gallois qui marquent un essai pour recoller.
Sur le petit côté, il est passé ! Phillips a marqué un essai ! L'essai de Mike Phillips ! Super bien joué de la part des Gallois ! C'est la stupeur ici !
Heureusement, il ne sera pas transformé. Mais il porte le score à 9-8. S'ensuit alors 20 minutes de souffrance, où le 15 du Poirot va conserver le ballon dans notre camp, matraquant la défense, cherchant à profiter du moindre intervalle et à pousser à la faute des Français condamnés à défendre. À 5 minutes de la fin, ils obtiennent enfin ce qu'ils étaient venus chercher.
Avec un ballon peut-être intéressant.
Mais non !
Aïe. Et la voilà la pénalité. La voilà la pénalité en faveur du Pays de Galles.
50 mètres face au poteau, l'équation est simple. Si Leif Halfpenny et son coup de pied de mammouth passent cette pénalité, les Gallois passeront devant, et probablement définitivement, pour s'offrir un exploit, et par la même occasion, la première finale de leur histoire. L'arrière-gallois pose son ballon sur le tee, prend 4 pas de recul, il regarde les perches au loin, prend 3 grandes respirations et s'élance. Il pose son pied d'appui, et sa jambe droite propulse le ballon, qui s'élève dans le ciel de l'Eden Park d'Auckland, droit en direction des perches. Le temps s'arrête quelques secondes. Tout le stade, les joueurs, les millions de téléspectateurs observent ce ballon à la direction parfaite qui se rapproche petit à petit des poteaux pour faire basculer la rencontre.
Allez, Halfpenny, 23 ans, l'ailier des Cardiff Blues qui peut jouer arrière. C'est dessous Thierry, je l'ai vu passer dessous.
Le ballon retombe finalement quelques centimètres sous la barre horizontale. C'est donc à ça que se joue parfois le destin d'une équipe. Car quelques minutes plus tard, le coup de sifflet final sera donné et enverra nos bleus moribonds, mais pas morts, en finale.
Stephen Jones, oh, on a oublié le ballon,
à
l'équipe de France,
à l'avant des rouges.
C'est bon, en avant des rouges Thierry, on va avoir la mêlée.
C'est fini.
C'est fini. La France est en finale de la Coupe du Monde.
Voilà, 2 victoires assez piteuses en poule, contre 2 des plus mauvaises équipes de la Coupe du Monde, une déculottée face aux Blacks, une humiliation face aux Tonga, une seule bonne mi-temps face aux Anglais, et un non-match qui méritait clairement une défaite face au Pays de Galles, mais nous voilà, on sait pas trop comment, en finale de Coupe du Monde. Le sport a ce truc de parfois complètement irrationnel. Retrouver nos bleus en finale cette année-là, quand on se souvient des éditions 95, 2003, 2007, où on n'y a pas été, c'est à n'y rien comprendre. La mascarade bleue, comme elle est vue à l'étranger et aussi par certains en France, devrait de toute façon se heurter à un mur. Car sur le chemin du sacre ultime, le dernier obstacle s'appelle les All Blacks. À domicile, qui n'ont plus remporté de Coupe du Monde depuis 87, c'était alors déjà face à nous, dans ce même Eden Park d'Auckland, et qu'on a battu lors de nos 2 derniers matchs à élimination directe, donc qui sont légèrement remontés contre nous, qui nous ont éclatés un mois plus tôt, et qui n'ont pas tremblé une seule seconde dans cette Coupe du Monde. Pas dingue comme contexte, mais bon, on en a vu tellement avec cette équipe que tous les espoirs sont permis ce 23 octobre 2011, lorsque les équipes pénètrent sur le terrain.
L'appel des joueurs, le 48e et dernier match de cette Coupe du Monde. France, All Black, finale, Coupe du Monde.
Comme en 99, comme en 2007, les Bleus vont profiter du haka pour montrer aux Blacks qu'ils ne sont pas venus là pour faire de la figuration. Se positionnant en V, ils marchent vers leurs adversaires, autour de leur capitaine Thierry Dussautoir, dont le regard avant ce match est le symbole ultime de la détermination bleue. Seuls face à tout un stade, à toute une nation, ce sont bien eux qui infligent aux Blacks une première séance de défense. 12 longs temps de jeu dès la deuxième minute, durant lesquels les Néo-Z plient mais ne rompent pas. Le ton est donné. Oui, les Bleus sont arrivés dans cette Coupe du Monde en plein doute. Oui, ils ont subi la défaite la plus humiliante de leur histoire face aux Tonga. Et oui, ils sont arrivés sur ce terrain miraculeusement. Mais maintenant qu'ils y sont, ils vont tout faire pour gâcher la fête. Les Blacks l'ont bien compris, et ils répondent sur le même terrain de l'intensité. Le premier quart d'heure est en ce sens d'un niveau rare. Tous les chocs sont rudes. Tout le monde veut marquer son adversaire direct. En défense, en attaque, chaque équipe se rend littéralement coup pour coup. À l'issue de ce premier quart d'heure, les Blacks ont un lancer en touche à 15 mètres de la ligne française.
Ça peut être très intéressant pour les Blacks. On est dans les 22 après moins d'un quart d'heure de jeu. Ça sera en fond de touche avec Keno. Attention, il est passé et l'essai. Le premier essai de Woodcock pour le Néo-Zélandais.
À l'issue d'une combinaison parfaite, le pilier Woodcock s'en va aplatir derrière la ligne pour donner un premier avantage à son équipe, 5-0. Privé de Dan Carter blessé, les Blacks s'en remettent à leur demi de mêlée Whipoo pour les coups de pied. Auteur d'une performance très solide en demi, il va s'avérer beaucoup moins précis, voire catastrophique, en ratant 3 coups de pied au cours de cette première période, laissant nos Bleus, qui commencent à reculer légèrement dans le match. L'un d'eux, en revanche, ne terminera pas la rencontre. À la 23e minute, Morgan Parra plaque un adversaire et se retrouve au sol à côté du regroupement. Le capitaine All Black Richie McCaw arrive alors lancé avec le poing fermé et genou en avant pour venir percuter violemment la tête du demi d'ouverture français. L'image est d'une rare violence. McCaw joue bien le coup, si on peut dire, car il n'y a rien d'évident à vitesse réelle. Le ralenti ne laisse en revanche guère de place au doute. Malheureusement, l'arbitre Craig Joubert ne va pas revenir sur cette action. Sans doute pas hyper à l'aise avec l'idée d'exclure le mythique capitaine chez lui. Il aura en fait du mal à le sanctionner tout court, tout au long du match, malgré son anti-jeu caractérisé. Un peu embêtant pour un arbitre à un tel niveau. Lorsqu'il siffle la mi-temps, les Bleus sont en tout cas dans le coup. Plus que jamais et plus que personne n'aurait pu l'imaginer. Et si c'était nous la bête noire néo-zélandaise? Et si c'était notre année pour remporter une victoire tellement française par son côté imprévisible et inattendu? Il y a en tout cas de sérieuses raisons d'y croire. Au retour des vestiaires, les Blacks repartent tambour battant et creusent l'écart grâce à une pénalité de Donald. Mais dans la minute qui suit...
Que va décider Dimitri Ashvili? François Krajnuk une nouvelle fois avec Rougerie. Thierry du sautoir. Essai pour l'équipe de France, marqué par le capitaine Thierry du sautoir. Et quel François Krajnuk, Thierry! Quel François Krajnuk!
Comme en 2007, c'est le capitaine Thierry du sautoir qui franchit la ligne d'en but. Sur une action similaire d'ailleurs, qui réduit l'écart et redonne espoir à son équipe. Transformé par François Trinduc, cet essai ramène les Bleus à un petit point, 8-7. Un frisson parcourt alors les tribunes de l'Eden Park. Et ce frisson envahit même les joueurs du 15 de la Fougère, qui semblent alors pétrifiés par l'enjeu et par la possibilité, devenue si réelle, de perdre cette finale face à un 15 de France qu'on pensait tellement pas au niveau. La dernière demi-heure va être un supplice pour les locaux. Acculés dans leur camp, ils tentent de résister comme ils le peuvent face aux avant-français qui prennent clairement le dessus. Campant dans le camp adverse, les Bleus font mal à chacun de leur temps de jeu. Problème, l'arbitre Craig Joubert n'osera jamais siffler une pénalité contre les Blacks, pourtant si souvent à la faute. Jamais dans ma vie je n'ai souvenir d'une telle différence de traitement entre deux équipes. Jamais non plus je n'ai vu des rugbymen manifester si clairement leur mécontentement suite à des coups de sifflet. Parce que comme en 95, et pourtant dans un contexte très différent, les Bleus se sont fait voler ce soir-là. Jamais ils n'obtiendront cette pénalité salvatrice, malgré au moins 5 fautes évidentes de leurs adversaires. Et jamais ils ne parviendront à perforer le mur noir dressé en face d'eux. Et à jamais, ils se souviendront de ce coup de sifflet final, marquant la fin de leur rêve.
Évidemment, tout le monde a vu le chrono dans le stade.
On va taper un touche,
ouais.
C'est fini.
C'est terrible pour l'équipe de France, qui a fait un match exceptionnel.
Énorme.
Exceptionnel. Pénalité, c'est fini. C'est fini. Richie McCaw le sait. Alors qu'il y a des joueurs français qui sont touchés, ils tapent en touche, voilà. Et maintenant, Monsieur Joubert siffle la fin du match. Ce sont les Blacks qui sont champions du monde.
Troisième finale et troisième défaite. Mais cette fois-ci, les Bleus n'ont pas manqué leur rendez-vous. Ont sans doute été meilleurs que leurs adversaires, malgré un parcours des plus chaotiques. Ils ne méritaient sans doute pas d'aller en finale, mais ils méritaient à coup sûr de la gagner. Cette finale perdue va être le sommet du rugby français de ce début de XXIe siècle. Et si les années de l'ère Lièvremont, qui s'achèvent suite à cette défaite, avaient été des montagnes russes, les suivantes vont être une lente, longue, interminable descente aux enfers. Des sélectionneurs contestés, un creux générationnel clair, une fédération mal gérée et un public qui se lasse, qui se désespère même, les années 2010 vont être franchement catastrophiques d'un bout à l'autre pour le 15 de France. Jugez plutôt, de 2012 à 2019, il ne va se hisser qu'une seule fois sur le podium du tournoi Destination, et encore seulement 3ème en 2017. Il va même finir dernier en 2013, pour la première fois depuis l'arrivée de l'Italie. Sur 75 matchs entre 2013 et le début de la Coupe du Monde 2019, les Bleus vont s'incliner 45 fois pour 2 nuls et 28 minuscules victoires. Et si vous enlevez celle face à des équipes du second niveau du rugby international, vous tombez même à 23. Jamais les bilans bleus n'ont été si mauvais. Et plus que les chiffres bruts, l'impression laissée par certaines déroutes et séries de défaites marque au fer rouge cette équipe, qui s'enfonce encore et toujours dans ses doutes. La plus tristement célèbre est ce quart de finale de la Coupe du Monde 2015 face aux All Blacks, joué au Millennium de Cardiff, 8 ans seulement après l'exploit de 2007. Ce soir-là, ils vont à peine y croire, peut-être à la 35e minute lorsqu'ils recolleront à 24-13. Mais la seconde mi-temps sera un véritable chemin de croix pour les hommes du sélectionneur Philippe Saint-André, qui couleront 62-13, encaissant 9 essais. Il y a surtout eu, durant toute cette période, une impression persistante d'impuissance, comme si tous les miracles des générations précédentes se retournaient contre nous. Pour moi, le symbole de cette période, c'est de voir le pauvre capitaine Guilhem Guirado, l'un des rares joueurs au niveau en termes rugbystiques, mais aussi d'engagement et de combativité, venir commenter encore et encore les défaites au micro de France Télé à la fin des matchs.
Oui, Guilhem, Raphaël Ibanez parle de faillite mentale ce soir. Est-ce que vous pensez que c'est là que ça s'est joué à la mi-temps? Est-ce que vous vous êtes peut-être un petit peu vu gagner trop vite?
Je sais pas, vu que c'est un refrain déjà vu, je vais pas trop prononcer dessus parce que je vais passer pour une personne de ridicule, mais ça m'agace et ça commence à bien faire. Quoi, parce que...
Et la Coupe du Monde 2019 ne tournera pas au miracle non plus. Malgré un vrai espoir de retourner le Pays de Galles en quart, les Bleus se puniront tout seuls. Dans une phase de domination intense, et même concrétisée par un essai d'Antoine Dupont, Sébastien Vaamaina, pourtant auteur d'un essai en début de match, va se faire expulser suite à un coup de coude inutile, mais tellement représentatif de la déprime des 7 dernières années bleues. Deux éliminations consécutives en quart de finale, cette période est clairement à effacer des mémoires. Mais après ce deuxième échec consécutif, tout n'est cependant pas à jeter, et de vrais motifs d'espoir commencent à pointer le bout de leur nez. L'arrivée de Fabien Galthié, leader apprécié des joueurs, l'éclosion de la nouvelle génération des Ntamack, Dupont, Aldrich, Baye, semble enfin redonner un souffle nouveau au 15 de France. Surtout, le projet est désormais on ne peut plus clair. L'objectif est fixé à 2023 pour la Coupe du Monde dans l'Hexagone. C'est donc une volonté de continuité qui anime le staff, qui n'hésite pas à installer des jeunes pépites titulaires, à leur faire confiance. Et cette stratégie paye d'entrée. Dans un tournoi 2020 perturbé par le Covid, les Bleus retrouvent enfin leur lustre d'antan, terminant deuxième derrière l'Angleterre, la faute à une seule défaite en Écosse. Et en 2021, le sursaut se confirme. Dans des stades encore vides de supporters, les Bleus vont s'imposer en Italie, en Irlande, pour la première fois depuis 2011, et face au Pays de Galles. Deux défaites de 3 et 4 points en Angleterre et face à l'Écosse ternissent un peu le bilan final, mais on sent que cette équipe est en train de se trouver une âme, un style de jeu. La puissance d'Aldrich et Antonio, le génie d'Antoine Dupont, la vista de Romain Ntamack, l'expérience de Gaël Fiti ou encore la finition redoutable de Damien Penaud, tous ces éléments complissent le public qui renoue enfin avec son équipe. Pour matérialiser cet amour retrouvé, il manque encore un sommet, une performance référence qui mettrait tout le monde d'accord. Le 20 novembre 2021, au Stade de France, les Bleus achèvent leur test match annuel de novembre face aux Néo-Zélandais, qu'ils n'ont plus battu depuis 14 matchs. Auteur d'un début de rencontre tonitruant, ils mènent 24-6 à la mi-temps. Mais les Blacks reviennent à 27-25 à l'heure de jeu et poussent pour faire basculer le destin de ce match. Les Bleus vont alors réaliser une action fondatrice, sans doute celle qui les a fait basculer dans une autre dimension. Tout part d'une touche française à 30 mètres de l'embut néo-zélandais. La touche est perdue, les Blacks relancent et Jordi Barrett envoie un coup de pied qui vient mourir dans l'embut français. Ntamack arrive le premier, mais est sous la pression de 3 joueurs.
Tout à l'heure, bonne défense là d'Anthony Gelon, mais ils ont remonté près de 40 mètres. Gabin Villiers qui a manqué son plaquage, Jordi Barrett, et là ça va jouer à la course.
Le rebond.
Allez Antoine, rebond. Antoine Dupont, Romain Ntamack qui revient. Est-ce qu'il a ramené ce ballon dans son embut et il relance.
Bien Romain.
Allez, accélérant. Allez Romain. Romain, oh oui, formidable avec Jaminet. Jaminet, il y a un coup à jouer parce que qui est là? Le ministre de l'Intérieur, évidemment. Antoine Dupont au soutien.
Allez, de suite, de suite, de suite, de l'autre côté d'abord, au large. Il y a du monde là-bas. Oui, mais Antoine Dupont, il était pris, il ne pouvait pas éjecter ce ballon. C'est Barlow qui s'y colle. Gros. Oh oui, il y a du monde sur les extérieurs. Cameron Wauki, il a le soutien de Tanti. Wauki qui garde, qui accélère. Allez, venir, déplier ce ballon. Romain Taufifénois qui conserve dans l'axe, en percussion. Allez, encore dans l'axe. Bamba qui essaye de nettoyer la zone. Intervention de Monsieur Barnes, il va y avoir carton jaune.
En 30 secondes, les Bleus ont remonté 90 mètres pour s'offrir une pénalité sous les poteaux. Mais plus que ça, ils sont renoués avec leur passé, avec ce French flair que l'on avait perdu depuis si longtemps. C'est un tournant dans ce match, car les Blacks ne marqueront plus le moindre point et s'inclineront finalement 40-25. C'est un tournant aussi dans l'histoire de ce groupe mené par Fabien Galthié, qui enfin s'offre la meilleure équipe du monde, avec la manière et engrange une confiance maximale en ses capacités. C'est sans doute ce soir-là que cette équipe a affirmé pour la première fois à la face du monde entier que oui, elle serait favorite pour sa Coupe du Monde. Et les semaines, les mois suivants même, viendront confirmer ces belles promesses. Pour la première fois de son histoire, le 15 de France terminera une année invaincue. Un grand chelem pour démarrer, puis des victoires face au Japon, à l'Australie et à l'Afrique du Sud porteront la série de victoires consécutives à 14. Entre le 6 novembre 2021 et le 10 février 2023, les Bleus auront battu toutes les meilleures équipes du monde. Ils chuteront finalement en Irlande, qui s'affirme alors comme son rival ultime lors de la deuxième journée du tournoi, mais relèveront bien vite la tête face à l'Écosse, et surtout en Angleterre, où ils vont réaliser une démonstration absolument historique. Sur le terrain de Twickenham, où elle a encaissé 7 défaites en autant de rencontres sur les 12 dernières années, la France va s'imposer 53-10, à l'issue d'une prestation parfaitement aboutie, terrassant son éternel rival. C'est le dernier chef-d'œuvre en date de cette équipe, qui paraît prête à affronter le plus grand défi de son existence. En 4 ans à peine, elle a su complètement renverser la vapeur, passant d'une équipe moribonde, délaissée par ses fans et sans ambition, à une référence du rugby mondial, encouragée, poussée, aimée par tout un peuple, et qui fait peur au monde entier. Il suffit de voir les stades dans lesquels elle a évolué ces dernières années. Marseille, Saint-Etienne, Nantes, des terres de foot, 100% acquises à la cause des rugbymen. Ou bien la pub volvique d'Antoine Dupont, reprenant les mêmes paroles que Zidane avant 98. Et il ne faut pas oublier qu'il reste sur une série ahurissante de 14 victoires consécutives à domicile, contre absolument toutes les meilleures équipes du monde. Avant de conclure, je vous invite juste à rester après le traditionnel générique de fin. J'ai une petite surprise pour être prêt pour tous les matchs de la Coupe du Monde. Je vous en dis pas plus. Il s'en est passé des choses depuis la rustique édition de 87. Il est toujours aussi difficile à croire que France ne soit pas gravé sur le trophée Webb Ellis, et je refuse d'imaginer que ce soit toujours le cas dans 2 mois. Parce que cette fois-ci, il n'y aura pas besoin d'exploit, tant la France sera, à domicile, favorite contre toutes les équipes du Mondial. Alors oui, historiquement, les équipes de France détestent cette position, mais celle-ci semble programmée pour résister à la pression. J'ai une grosse pensée pour Romain Ntamack, qui a fait partie de la renaissance de cette équipe, pour Paul Willemse aussi, qui vient de déclarer forfait, parce qu'ils auraient mérité de vivre cette aventure jusqu'au bout. Mais j'ai envie de croire que le groupe France se relèvera de ses coups durs. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, plus qu'à encourager, vibrer, trembler, et on l'espère, gagner.
Vous avez aimé ? Retrouvez tous nos podcasts sur lesportcestbien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien.
Bon, c'est une première. Pour nous chauffer un peu avant les matchs, je vous propose un petit medley de commentaires de nos bleus adorés. C'est une manière aussi pour moi de rendre un hommage plein d'admiration pour Mathieu Lartaud, la voix de cette équipe depuis plus d'une décennie. Amputé récemment d'une jambe, le voir de retour ces derniers jours dans les médias me remplit de joie. Et même s'il ne commentera pas la Coupe du Monde diffusée sur TF1, c'est aussi clairement grâce à lui qu'on aime tant cette équipe, tant il transpire de passion pour ce sport. Voilà, c'est mon moyen de le remercier. N'hésitez pas à vous remettre tous ces extraits dans les oreilles avant chaque match de l'équipe de France pour être bien échauffé. Et je vous souhaite une bonne Coupe du Monde à tous.
C'est parti pour le coup d'envoi de ce match entre Français et Irlandais. Coup d'envoi donné par Romain Ntamack.
La chandelle du Catalan, elle est profonde. Elle est tapée dans un angle difficile, mais bonne couverture de Stein. Découpé par Sébastien Chabal, qui va récupérer ce ballon.
Avec Baye, allez, Olé, Jaminet, il y a de la vitesse, il y a surtout Willy Antonio.
pour créer un point de fixation. Les déblayages sont efficaces. Quel début de match des Bleus avec El Tamak qui attaque la ligne.
Il pousse les bras. Le chef-d'œuvre d'entrée et l'essai d'Antoine Dupont après seulement une minute de jeu. Quel mouvement merveilleux des Bleus.
Tentative de transformation difficile en coin. C'est parti.
Belle. Belle.
Et c'est parfait. Ça fait 7-0 pour l'équipe de France ici à Twickenham. Topé par Marchant. Aldrit encore lui dans l'axe.
Oh, le maintenant d'Antoine Dupont intérieur. Oui, Antoine Dupont laissé sous les poteaux. Le compte des Gersois frappé.
C'est à ça qu'on juge une grande équipe. Jalibert allonge la passe pour Damien Penaud. Un contre un. Penaud le crochet intérieur. Le raté.
Oh oui. Oh oui. Monsieur Damien Penaud dans ses œuvres pour aller planter cet essai qui permet aux Bleus de reprendre l'avantage.
Les dernières secondes, c'est la dernière mêlée.
Allez, en touche.
La libération est là.
Ouais,
le 15 de France est de retour au sommet. 12 ans après, les Bleus remportent le tournoi Destination et le 10e grand chelem de son histoire.